Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Mystère de fragilité, Isabelle Mordant, bonjour.
Bonjour Nathalie.
Alors c'est un dernier entretien avec vous. Merci de votre fidélité, merci aussi pour toute la richesse aussi de vos prises de parole dans ces différents entretiens. Je rappelle que vous avez écrit ce livre avec cet intitulé Mystère de fragilité. Il y a bien des mystères, hein, et des mystères qu'on n'arrive pas toujours à résoudre. Le mystère du mal, le mystère de la souffrance. Et au fond, ce livre donne naissance, je dirais, à plein d'espoir, l'espoir aussi de la vie. Et cette vie, vous en témoignez avec ce parcours extraordinaire, au fond, de Thomas, qui aujourd'hui est un jeune homme de 23 ans, qui est totalement dépendant, je dis bien totalement dépendant.
Mais physiquement.
Physiquement, on est bien d'accord. Mais les fruits qui en découlent sont considérables. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette dépendance de Thomas, qui est une dépendance physique, hein,
Je précise.
Quels sont les fruits ?
C'est très paradoxal, hein, parce que la dépendance, a priori, c'est quelque chose qui est détestable. On en parle beaucoup, hein, dans la société, et il y a certaines personnes qui proclament qu'elles préféreraient mourir à être dépendantes. Et c'est détestable, la dépendance. C'est vrai, c'est difficile, la dépendance. Pourtant, c'est vrai que ça porte du fruit. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert en m'occupant de Thomas, à mon corps défendant, parce que ni lui ni moi n'avons choisi qu'il soit dépendant. Aujourd'hui, sa maladie a beaucoup évolué. Et aujourd'hui, physiquement, il est entièrement dépendant. Il peut faire seul aucun geste de la vie quotidienne. Il faut donc qu'une tierce personne fasse pour lui, à sa place, tous les gestes. Ça va des gestes les plus intimes, il faut le laver, l'habiller, le faire manger, à des gestes plus physiques, il faut le porter, à des gestes ou des actions plus exigeantes sur le plan intellectuel, comme par exemple écrire sous sa dictée des mathématiques parfaitement incompréhensibles. Les personnes qui aident Thomas, c'est mon mari et moi, en première ligne, parce qu'on est ses parents, c'est normal. D'autres personnes de la famille, son frère, ses grands-parents notamment, que je remercie de leur soutien pendant toutes ces années. Les quatre grands-parents de Thomas, j'ai une pensée pour vous, en particulier, aujourd'hui. La famille, des relations, des amis, puis aussi des gens qui l'aident à titre professionnel, donc des auxiliaires de vie, des enseignants, des professionnels de santé, dont je salue aussi le travail, l'engagement, le dévouement. Et en fait, on pourrait imaginer que faire à la place de Thomas tous ces gestes, ça pourrait être un peu humiliant, un peu dégradant pour lui et pour nous. Et en fait, ça l'est pas du tout. Et c'est même tout le contraire. Parce que Thomas, c'est quelqu'un qui assume ce qu'il est, qui accepte sa situation, et qui demande ce dont il a besoin avec beaucoup de simplicité, beaucoup de gentillesse, beaucoup de dignité. Qui ne peut pas tricher. En fait, il est ce qu'il est. Quand il a besoin de quelque chose, il le demande. Il sait aussi qu'on va l'aider. Il nous fait confiance. Je crois que c'est ça la clé. Il nous fait confiance. Il s'abandonne à nous. Et en plus, il a un corps extrêmement fragile, extrêmement douloureux. Donc, c'est un vrai geste d'abandon de sa part, de s'offrir, entre guillemets, à nos soins. Et la dignité dont il fait preuve nous met, nous, ce qu'il est donc en général, donc je vais parler pour moi, mais je pense que ça vaut pour tout le monde, devant, en fait, nous met dans une situation de vérité complète. Nous non plus, on peut pas tricher. Lui, il peut pas tricher, mais nous non plus. Parce que si on est maladroit, si on est pressé, si on est impatient, contrarié, c'est vrai que quand il faut habiller Thomas, je pense au coup de fil qu'il faut passer après, à la démarche qu'il faut aller faire. On a tous nos insuffisances, nos improvisations. Et quand on n'est pas complètement ajusté à ce dont il a besoin, il le sent forcément. Et donc, comme il nous fait confiance, sa confiance nous oblige à toujours nous améliorer. On doit toujours chercher le geste le plus approprié, la bonne distance, l'attitude la plus respectueuse. Et ça nous oblige, nous, à grandir, nous, ceux qui l'aidons. Et en fait, cette relation d'aidant à aider, d'aider à aidant, elle est rude, elle est difficile, mais elle est ramenée à l'essentiel, l'amour. C'est quand Thomas s'abandonne à nous, c'est une manifestation d'amour. Et quand nous l'aidons, c'est un geste d'amour.
C'est magnifique. Hein. Et en fait, vous nous renvoyez aussi cet aspect de l'amour, mais l'amour dans la vérité. Et il n'y a pas de vérité sans amour et d'amour sans vérité. Et au fond, vous nous décrivez dans votre histoire de vie, vie de famille, que Thomas, s'il nous écoute dans cette émission, que je salue aussi très fort, même si on ne le connaît pas.
Je t'embrasse, mon Thomas.
Et on parle beaucoup de Thomas. Au fond, ce jeune homme est un homme, vous parlez de vérité, mais qui est au fond libre, pleinement libre. Car là où il y a la vérité, il y a souvent cette liberté. Alors même si votre fils Thomas, que vous nous décrivez dans son état de dépendance totale physiquement, au fond, moi, ce que j'entends, c'est que Thomas, lui, a trouvé ce mystère, ce grand secret de la liberté à travers cette vérité et à travers son état et sa dépendance. Enfin,
oui,
voilà.
Thomas,
comment je réceptionne un petit peu
ces paroles. C'est extrêmement paradoxal. Quand on le voit, c'est pas l'impression qu'on peut avoir quand on juste le voit. Mais oui, Thomas est parfaitement libre. Mais il a trouvé, enfin, il a réussi à s'affranchir en fait d'un carcan. Alors il y a le carcan physique, le carcan de la nature. Il y a le carcan de la société que la société voudrait lui imposer. Parfois le reléguant à un statut d'handicapé qu'on assiste et qui n'a pas besoin de se faire sa propre place. Et Thomas, il est parfaitement libre et il s'affranchit aussi de certaines conventions.
Alors dans votre livre, et on va terminer bien sûr sur une note positive, tout est positif puisqu'on ne parle que de vérité, d'amour, et au fond de confiance, d'abandon. Thomas, un jour, vous interroge sur cette question aussi autour de l'avortement. Aurait-il pu être ce bébé avorté ?
Oui, Thomas a travaillé un texte en anglais sur l'avortement et comme il était... Il avait 14 ans et il ne savait pas exactement ce que c'était. Donc ça m'a obligée à lui expliquer en quoi ça consistait. Et puis moi, je suis quelqu'un de très... un peu scientifique. Donc j'ai une approche... je lui ai dit exactement ce qui existait, ce qui était possible, dans quelles conditions, selon la loi. Et il a découvert à ce moment-là que sa maladie aurait pu, en termes légaux, bien sûr, aurait pu justifier un avortement, une interruption médicale de grossesse. Ce qu'on appelle avortement thérapeutique, qui me surprend toujours un petit peu. Et il m'a posé cette question. Il m'a dit, mais moi, alors, avec ma maladie, est-ce que tu aurais pu avorter ? Et je lui ai dit que la question ne s'était pas posée pour nous, mais qu'effectivement, sa maladie justifie un avortement. Et là, il m'a regardé d'un air, mais j'oublierai jamais ses yeux écarquillés. Et il m'a dit, mais moi, j'aime la vie. Et je suis très contente qu'on termine par cette phrase de Thomas, parce que Thomas aime la vie. Et quand on... Alors, moi, je ne juge pas du tout. Je juge vraiment... Enfin, les parents... Moi, je n'y ai pas été confrontée, parce que de toute façon, on ne savait pas quand on attendait Thomas. Donc, je n'ai pas été confrontée à cette question. Donc, je ne peux pas me permettre de juger. C'est affreusement douloureux, quelle que soit la décision qu'on prend. Donc, je ne juge aucun parent qui prenne une décision dans un sens ou dans l'autre. Mais en revanche, il y a tout un discours qui consiste à dire que l'avortement, dans certains cas de pathologie très grave de l'enfant, c'est un acte d'amour parce que l'enfant sera forcément malheureux. Eh bien, Thomas, c'est le témoignage que même avec une maladie horrible, une maladie terrible qui fait beaucoup souffrir, on peut être très heureux et on peut revendiquer le droit de vivre.
C'est avec beaucoup d'émotion que vous terminez cette série. Je ne voulais pas vous faire pleurer, Isabelle
Mordant.
Oh non,
je ne pleure pas.
Mais je crois que vous terminez et que vous concluez finalement la série de ces différents entretiens de la semaine sur une parole qui correspond tout à fait à Thomas qui a aujourd'hui 23 ans et qui a fait le choix de la vie.
Oui, ouais. C'est un choix qu'on fait tous les jours, le choix de la vie.
Ouais. Donc on invite peut-être ceux et celles qui vous ont suivis attentivement et accompagnés, qui doutent parfois de cette vie, de rechoisir peut-être là, maintenant, avec un tel témoignage. Et merci encore Isabelle Mordant. On peut donc découvrir cette histoire dans ce livre paru aux éditions du Cerf, Mystère de la fragilité, ô combien la fragilité peut conduire aussi pleinement... Et on le voit avec votre fils Thomas à la vie. Merci et au revoir.
Merci à vous.